Chapitre 44. La messe fut dite pour 7 personnes dans l'église où Amanda avait voulu allumer des milliers de cierges. Une lueur jaune et tremblante, presque semblable à celle du feu de la cheminée, tombait sur le grand cercueil, et la voix du nouveau prêtre de la paroisse, un jeune homme sombre et maigre, résonnait dans le silence. « Tu enterreras ton père et ta mère, tu porteras en terre leurs corps déchirés et chéris, et nulle prière, nul Dieu ne pourra te porter secours, car tout l'amour du monde ne les retiendra pas. Il faut habituer les enfants à la douleur, car c'est elle qui les attend. Il faut les empêcher de tomber du haut d'un monde sans mort, où toutes choses ont leur guérison. » Les parents de Hans, en retrait au fond de l'église, étaient impassibles. Miranda caressait tristement les cheveux de Lucinda. La petite avait 7 ans aujourd'hui et atteignait l'âge de raison au pied du mur de bois et de silence qui enfermait sa grand-mère. Elle avait tenu à porter aujourd'hui sa plus jolie robe et à cueillir des centaines de fleurs. Son père, calmement, la berçait sur ses genoux. Hans ne pensait à rien, ébloui par la lumière des cierges, et serrait anxieusement la main inerte d'Amanda. Il tournait sans cesse la tête vers elle, machinalement, comme s'il espérait à chaque fois retrouver son regard, mais une cloison de ténèbres les séparait désormais, et Amanda voyait à travers lui, tournée vers un monde invisible. Dans ce monde, une lueur spectrale filtrait des parois du cercueil et miroitait dans l'obscurité. Les milliers de cierges brillaient comme de lointaines étoiles à travers un brouillard diffus. La voix du prêtre résonnait, sans origine et sans corps, comme celle d'un dieu. « Tu enterreras ton père et ta mère, » disait-elle, « tu porteras en terre leurs corps déchirés et chéris. » Chapitre 45. Un vent mauvais et des nuages d'orage s'acharnèrent pendant 2 mois sur le voilier. Amanda, indifférente à la lumière, à la houle, au danger, restait durant tout le jour dans sa cabine avec des bougies autour d'elle. Comme une Ophélie à demi noyée, elle se laissait porter et tourmenter par la mer sans la moindre réaction. Hans, lui, profitait du vent pour crier et de la pluie pour pleurer, luttant contre les éléments avec un âpre désespoir. Le pilotage était chaque jour plus difficile, et le froid avait fait de profondes entailles dans ses mains. Mais il continuait pourtant à tenir le gouvernail et à dérouler les cordages, seul comme il ne lui était jamais arrivé de l'être. Parfois, il pensait que la vie l'avait trahi et qu'il devrait l'abandonner, tout lâcher, sans souci des récifs et de la foudre, pour s'allonger à jamais aux côtés d'Amanda. Puis la colère reprenait le dessus, et il se jurait en pleurant qu'il serait heureux malgré le noir, la mort et les tempêtes, qu'il arracherait les yeux d'un ange pour rendre la vue à Amanda et qu'il la forcerait à oublier. Alors la nuit tombait, et le vent avec elle. Le noir descendait sur toute chose et digérait lentement le monde. C'était le seul moment où Amanda sortait de sa torpeur. Hans, épuisé, les mains blessées, se jetait sur le lit. « Est-ce qu'il fait nuit ?» demandait Amanda. « Oui. J'ai entendu la tempête. » Hans regardait son visage infirme, ses orbites pleines de noir, puis il détournait les yeux, découragé. « Le vent tombe toutes les nuits et se lève chaque matin, » disait-il. « C'est absurde. » « Tu veux que nous restions à terre ?»« Non, je crois que je deviendrais fou si nous restions immobiles. » Amanda passait maladroitement les mains sur son visage. « Un jour, disait-elle, le vent tombera et je retrouverai la vue. » Mais le ton de sa voix trahissait son absence d'espoir. « Un jour, » répétait Hans sombrement. Amanda aurait voulu lui parler de l'obscurité qui la rongeait, lui exprimer sa peur d'avoir perdu le monde, d'avoir perdu le visage de son amour, de ne jamais le voir changer et vieillir. Mais elle se taisait, dans un dernier effort pour l'épargner, et cet effort l'épuisait tellement qu'elle restait sans force. Hans avait l'impression qu'elle était morte, elle aussi, morte sans se débattre, en le laissant tout seul. Il avait parfois envie de la protéger, de lui masser les paupières, de la faire rire, mais le plus souvent, il n'avait envie que de s'allonger à côté d'elle et de perdre conscience le plus vite possible. Il ne pouvait pas partager sa douleur, et elle ne pouvait pas partager la sienne. Il devait rester là, elle dans le noir qui l'étouffait, lui dans sa solitude, jusqu'à ce que quelque chose les sauve. Certaines nuits, il faisait l'amour en pleurant, comme une déchirante prière qui prend naissance, s'enflamme et s'éteint, dans le silence assourdissant du tombeau. Chapitre 46. Pendant plusieurs mois, Miranda alla chaque jour à la maison de la mère. Elle prit l'habitude, dès qu'elle fut assez forte pour ne plus pleurer, d'emmener Lucinda avec elle. Elle restait là quelques heures, se laissait gagner par la présence des choses et pénétrait dans leur univers calme, comme on se promène parmi des ruines. Il y avait une certaine beauté, ou plutôt une certaine puissance, dans cet immense désordre qui avait sédimenté toute une existence et dans lequel Miranda trouvait parfois des morceaux de son enfance. Il ne fallait pas aller trop vite, car les choses opposaient alors une mystérieuse résistance. Un mouvement brusque aboutissait presque invariablement à un effondrement dangereux. Une volonté trop active se faisait invinciblement submerger par un sentiment d'impuissance. Il fallait se laisser faire par la maison, la décortiquer doucement, en respectant l'ordre impénétrable qu'elle imposait. On ne pouvait pas choisir quelles pièces on allait fouiller, trier et déblayer. On faisait ces choses sans violence, un jour ici, le lendemain ailleurs, ôtant les objets les plus accessibles, les moins lourds, découvrant sans cesse une nouvelle configuration des lieux qui rendait impossible tout projet précis. Lorsque Miranda se sentait trop découragée, elle s'en remettait à sa fille. Lucinda repérait instinctivement la zone accessible où elle pourrait travailler, et son choix, que rien ne justifiait, se révélait toujours aussi bon qu'un autre et leur permettait d'avancer. C'est ainsi, par toutes petites touches, que la maison se dénuda peu à peu. Le phénomène était si lent qu'il semblait imperceptible, et d'une semaine sur l'autre, on avait toujours autant de mal à se frayer un passage. Mais Miranda savait qu'il ne pouvait en être autrement. On y verrait clair que lorsque tomberait le dernier voile, lorsqu'on ouvrirait la dernière poupée russe. En attendant, il fallait continuer à l'aveugle, sans jamais entrevoir la fin. Chapitre 47. Hans rêvait. Du moins, il devait rêver, car la terre autour de lui n'était plus ferme, mais tanguait comme le pont immense d'un bateau. L'horizon, barré d'arbres et de bâtisses, ondulait irrégulièrement, et Hans marchait avec précaution sur un chemin où il risquait sans cesse de perdre l'équilibre. Ce n'était pas désagréable, pas même étrange en fait. La seule chose inquiétante était cette rivière noire, dont il remontait le cours, et qui charriait ce qui lui avait semblé de prime abord les restes d'un naufrage. Des algues rousses, emmêlées, flottaient à la surface de l'eau, très calmes malgré la rapidité du courant, et parfaitement opaques. Le premier objet qu'il put distinguer fut la robe verte d'Amanda. Puis il vit dériver une petite planche de bois sur laquelle on avait fixé et allumé plusieurs bougies. Hans remontait vers la source, qu'il savait proche, mais que la houle du terrain dérobait sans cesse à sa vue. Il escalada une colline où le torrent noir se déversait sur un lit de pierres multicolores. Des mouettes silencieuses tournoyaient au-dessus de lui, et il faillit tomber plusieurs fois avant d'atteindre la grotte dont jaillissait l'eau noire. À l'intérieur, il faisait frais et sombre comme dans une église, et l'air était légèrement suffocant. L'eau surgissait de la pierre, et lorsque Hans la toucha, il frissonna de tous ses membres. « Vous y voilà, mon petit Hans !» dit une voix qu'il reconnut immédiatement. Il se tourna, et les parois de la grotte étaient soudain cachées par un gigantesque amoncellement de meubles, de coffres et de livres. À côté d'un feu surgi de nulle part, la mère était assise dans son fauteuil, dans sa robe à rayures, et le considérait avec un amusement bienveillant. « Je ne sais pas trop si vous allez m'écouter, parce que vous êtes du genre à ne faire que ce qui vous chante, mais je voudrais vous donner un conseil. » Hans s'approcha. « Oh, je sais ce que vous pensez, que tout ça c'est de ma faute, que je n'avais qu'à pas mourir. Croyez-moi, si j'avais eu le choix, je n'en serais pas là. Mais là n'est pas la question. La question, vous le savez aussi bien que moi, c'est Amanda. Cette petite a toujours été très compliquée, et je pensais bien qu'elle allait vous en faire voir, mais quand même pas à ce point. » « Aveugle, rien que ça. Notez que quelque part je suis touché, mais ça commence à bien faire. » Hans n'osait plus bouger et se concentrait sur la voix qui résonnait. Il remarqua que l'intérieur de la grotte, depuis quelques instants, ne tanguait plus. « Eh bien, voici mon conseil. Vous en ferez ce que vous voudrez. À mon avis, ça ne vous plaira qu'à moitié, mais je suis sûr que vous y viendrez. Dites-moi. » « Si elle refuse de s'accrocher à la vie, il faut user des grands moyens, Hans. » Il faut accrocher la vie en elle. Tenez, regardez la source derrière vous. » Hans se retournait et se trouvait tenir entre ses mains une longue et fine bouteille de verre coloré. Il s'approchait de la source et, sans réfléchir, versait dans l'eau le contenu du flacon. Quelques gouttes qui semblaient de lumière pure, se répandirent dans l'eau, et la lumière, de proche en proche, absorbait le noir et rendait l'eau à sa transparence. Au fond de l'eau, juste avant de s'évanouir ou de s'éveiller, Hans distinguait une fabuleuse émeraude. Chapitre 48. La tempête se calma un soir de septembre et ne se releva pas. Ni le lendemain, ni le surlendemain, Hans n'eut à affronter les vents. La mer était redevenue belle, langoureuse et pleine de transparence. Le ciel, qui se dégradait du rose très pâle au bleu profond, et dans lequel brillait encore l'étoile polaire, paraissait innocent de toutes les menaces qu'il avait conçues. Hans alla chercher Amanda et la guida jusqu'au pont. Elle se laissa faire en souriant. « Quelle heure est-il, Hans ? » demanda-t-elle. « Tiens, mets tes mains sur le bord et dis-moi ce que tu ressens. »« Je sens le soleil encore tiède, qui doit être pâle. C'est le matin. Et puis ?» Je sens l'odeur des produits que tu mets dans l'eau pour nettoyer le voilier. Oui, dit Hans, le pont est lustré, il brille encore par endroits. Et puis, je sens les embruns sur ma peau, et mes cheveux sont décoiffés par la brise. J'entends claquer les voiles, j'entends rire quelques mouettes, je dirais deux ou trois. Elle avança la main, et Hans se précipita pour se trouver sous sa caresse. Nous allons faire une escale, dit-il, tu marcheras pieds nus dans le sable. Tu mangeras quelque chose de bon, tu sentiras le parfum du jasmin. Et après, tu me joueras de la musique ? Hans se sentait de force à faire n'importe quoi. Ils s'arrêtèrent au bout d'une plage blanche que l'eau venait amoureusement lécher, et ils coururent quelques minutes. Le noir était plus lumineux lorsqu'Amanda était dehors, et les sensations qu'elle éprouvait étaient si agréables qu'elle n'avait presque plus peur. Hans la dépassa et se retourna pour l'attendre. Quand elle se cogna à lui, ils rirent, puis Hans l'écarta doucement. « Amanda ? » dit-il sur un ton inhabituel. « Quoi ? » ?»« Il y a les empreintes de tes pas dans le sable. » Amanda cessa de rire et se pencha sur le sol. Hans accompagna sa main jusqu'à l'empreinte qu'elle caressa en hochant la tête. « Ce n'est pas moi qui laisse ces traces, » dit-elle en souriant. « Je t'assure. Je veux dire, c'est parce que je ne suis plus seule. Je suis lourde, tu comprends ? Je suis enceinte. » Hans eut un moment de vertige. Puis il vit le sourire paisible d'Amanda et ses yeux fermés qui semblaient pouvoir s'ouvrir sur une nouvelle couleur. « Tout ira bien, » murmura-t-elle. Chapitre 49. La grossesse d'Amanda se déroula sans nausée ni médecin, entre terre et mer. La sensation d'être le centre du monde, le tabernacle d'un événement sans précédent, ne la quittait pas. Elle avait le visage languide et rayonnant, les yeux souvent fermés, la peau du ventre tendue et veloutée. Souvent, Hans lui décrivait le monde au dehors d'elle-même, et elle l'écoutait religieusement comme pour se préparer à son retour parmi les hommes. « Il y a un vieil homme au bout de la jetée. Il a une canne à pêche, mais je crois qu'il est juste là pour regarder la mer. Il a un air candide, comme si à cet âge-là on redevenait forcément innocent. Et les cris d'enfants ? Trois petites filles sur la plage. Non, deux filles et un garçon. Ils sont tous les trois blonds comme les blés et habillés pareil. » Ils doivent avoir 6, 4 et 2 ans. Et la mer ? Bleu foncé au large et plus verte sur le rivage. Le soleil est déjà bas et la lumière est oblique et dorée, comme tu l'aimes. Le crépuscule ne tardera pas. Amanda souriait, les yeux clos. À l'intérieur, il se passe tant de choses. Je peux voir le dessin de ses mains à présent. Elles sont encore transparentes et fragiles, mais elles se serrent parfois. Il fait une douce pénombre, une douce chaleur. L'eau est toute enveloppante. Tu es sûre que ce sera un garçon ? Je le vois déjà depuis plusieurs jours. C'est déjà un garçon, mon amour. Quelle couleur y a-t-il au-dedans ? Gris-vert. Il n'y a pas de surface, ni de gravité, ni de sens. Il n'y a pas de tempête. Il flotte. Et son cœur ? Si je me concentre, j'arrive à l'entendre. Un battement presque aussi fort que le mien. Ce qui est le plus frappant, je crois, c'est à quel point il est vivant. Hans souriait à son tour. Amanda lui avait dit qu'elle recouvrerait la vue à la naissance, et il avait hâte de retrouver son regard. Chapitre 50. Lucinda était seule en bas lorsque le téléphone sonna, et Miranda, persuadée qu'il s'agissait du père de la petite, ne s'inquiéta pas. Elle était installée dans un rayon de soleil dans son ancienne chambre, et s'était assise sur le parquet poussiéreux, pour examiner le contenu d'un vieux tiroir plein de papiers et de lettres. Un parfum d'encre et de cire émanait du tiroir, où des écritures surannées s'effaçaient lentement sur des papiers d'autrefois. Miranda prenait les papiers au hasard et les lisait distraitement. Parmi les actes de mariage et de naissance, les diplômes et les carnets de bal, la mère avait conservé les premières lettres d'amour de son mari, qui étaient usées à force d'avoir été relues, quelques dessins d'Amanda, représentant invariablement des bateaux et la mer, et plusieurs mèches de ses propres cheveux. La cavalcade de Lucinda dans l'escalier la tira de sa rêverie, et elle tourna nonchalamment la tête pour voir apparaître sa fille. Lucinda, qui était encore à l'âge où le réel et le merveilleux ne forment qu'un seul continent, avait un étrange sourire aux lèvres. « Tu ne devineras jamais qui vient d'appeler, » dit-elle. « Ton père ? Non. Amanda ? Non. Hans ? Non, non. Quelque chose de beaucoup plus bizarre. » Miranda reposa les papiers dans le tiroir. « Je donne ma langue au chat, » dit-elle. « C'était grand-mère. Elle m'a dit, « Ma chérie, tu diras à ta mère qu'elle ne doit rien jeter. » Elle peut vendre tout ce qu'elle veut, mais par pitié, qu'elle ne jette rien, pas même un vieil entonnoir. C'est tout ? Oui. Miranda, à ce récit, ne se demanda pas si les fantômes existaient, ni si sa fille devenait menteuse ou fantasque. Non, en vérité, elle avait l'esprit entièrement absorbé par le projet d'une évidence lumineuse qui venait d'éclore en elle. « Mais oui, bien sûr, » dit-elle en se relevant énergiquement. « Maman ?» « Ne t'inquiète pas, Lucinda, tout va aller bien. Tu sais ce que nous allons faire ? Nous allons transformer cette maison en brocante, Lucinda, toi et moi. Et les gens viendront de 5 lieues à la ronde pour nous acheter de vieux entonnoirs. » Et c'est ainsi que la maison de la mère, qui avait toujours été un objet de fascination pour les villageois, s'orna d'une enseigne et d'une fabuleuse caisse enregistreuse mécanique. Miranda avait aménagé les 12 pièces de manière à livrer un étroit passage aux clients, qui, avec l'impression quasi religieuse de profaner une pyramide, passait souvent plusieurs heures à ouvrir les coffres, secouer les boîtes et tirer les tiroirs, à ausculter les tas et les piles, découvrant au hasard de leurs fouilles les mystérieux vestiges d'une autre existence. On venait là chercher des livres, des bibelots, des ustensiles de cuisine, des jouets, des outils, des vêtements, des meubles. On venait là aussi pour le seul plaisir de violer cette intimité prostituée. On venait là enfin pour montrer aux enfants la maison légendaire où la fortune avait frappé de son revers la famille la plus riche du village, le jour où naissait, d'un père centenaire, un bébé parlant dont les yeux changeaient sans cesse de couleur. Miranda, doucement mais sûrement, fit fortune, et si étrange que cela puisse paraître, put continuer son propre commerce pendant près de 40 ans sans avoir besoin de renouveler quoi que ce soit. Les 2 seules choses qu'elle ne consentit jamais à vendre furent les lettres d'amour de son père, qu'elle fit incruster à prix d'or sur le sarcophage de sa mère, et le fauteuil de celle-ci, qu'elle fit rempailler, et qu'elle utilisait elle-même dans sa vieillesse, car il n'en existait aucun d'aussi confortable dans tout l'univers. Chapitre 51. Les douleurs de l'enfantement prirent Amanda en pleine mer, en fin d'après-midi. Cela faisait des jours et des jours qu'elle se préparait à ce moment, qu'elle considérait comme une cérémonie et dont elle avait organisé les détails 1000 fois. Elle appela Hans pour l'aider à monter sur le pont, puis elle lui demanda de lui apporter un couteau à bois, le violon, une bassine d'eau bouillie, des ciseaux stériles et une brosse. Avec le couteau, elle grava un cercle sur le pont. Avec la brosse, elle démêla ses cheveux, puis elle se déshabilla entièrement, et, une fois nue, après avoir donné un baiser à Hans, elle s'installa à l'intérieur du cercle, avec la bassine et les ciseaux. « Je voudrais que tu mettes le cap à l'est, mon amour, pour que nous puissions voir tous les 3 le soleil se lever. » C'était la première fois qu'Amanda parlait avec autant d'assurance de la vue qu'elle allait recouvrer, et Hans, qui avait déjà peur pour elle, imagina un instant qu'elle se trompait, qu'elle pouvait rester aveugle pour toujours. Mais il obéit à sa requête, et lorsqu'il quitta le gouvernail pour la regarder à nouveau, elle était allongée dos au bois, au centre de son cercle. « Tu ne dois plus franchir la ligne, mon amour, » dit-elle. « Qu'est-ce que je peux faire ? Quand le moment sera venu, pour conjurer la peur, il faudra que tu joues du violon. » Hans se sentait si inutile et impuissant qu'il lui fut reconnaissant de lui confier cette tâche. « Il faudra que tu y mettes tout ton amour, et que tu joues jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu l'entendes crier, c'est très important. » Hans la regardait d'un air malheureux. Elle avait la tête tournée vers lui, mais ses yeux noirs le traversaient. « Quand il aura crié et que la musique se sera arrêtée, alors seulement j'ouvrirai les yeux et je retrouverai la vue. » L'attente fut lente et douloureuse. Amanda avait le visage qui se crispait de temps en temps, dans une grimace qui laissait deviner de sanglants déchirements, et Hans faisait les 100 pas autour du cercle, ne sachant que regarder. La nuit qui tombait l'étouffait d'angoisse, et le corps nu d'Amanda, avec son ventre mouvant qu'elle caressait patiemment, lui paraissait si fragile qu'il ne pouvait s'empêcher de l'imaginer disloquée et inerte. Il avait envie de s'allonger à côté d'elle, mais dès qu'il s'approchait un peu trop, elle lui disait doucement de s'éloigner. « Tu n'as pas froid ?» lui demandait-il souvent. « Non, mon amour, » répondait-elle. Mais il voyait bien que le vent de la nuit lui donnait la chair de poule. Vers minuit, Hans songea pour la première fois qu'il allait être père. « Amanda ?»«
Oui, »
murmura-t-elle. « Comment allons-nous l'appeler ?» Elle sourit. « C'est toi qui dois choisir son nom. » Hans n'y avait jamais réfléchi, mais le nom sortit de sa bouche comme s'il le connaissait depuis toujours. « Alors, est-ce que tu es d'accord pour que je l'appelle Ulysse ?»«
Cela lui va bien, » dit-elle en souriant toujours. « C'est un très beau nom. »
À 2 heures, Amanda commença à s'agiter et sa voix se fit plus plaintive.
« Mon amour, tu es là ?»
Hans, qui était à la lisière du cercle, tendit la main vers ses cheveux.
« Oui, je suis là. Tu crois vraiment que je pourrais dormir par une nuit pareille ?»« Il fait si noir, Hans, et depuis si longtemps. J'ai l'impression que le soleil ne se lèvera jamais. »
« Je vais t'allumer des bougies. »«
Non, s'il te plaît. Je préfère que tu restes à côté de moi. J'aurais peut-être dû aller à l'hôpital, mon amour. Il y a des femmes qui meurent. Je ne vais pas mourir, hein ?»«
Non, tu ne vas pas mourir. Tu vas mettre au monde notre fils, et puis tu retrouveras la vue.
C'est ce que tu as toujours dit. Et si je me trompais, Hans ? Si je me trompais ?
Rappelle-toi lorsque tu allais au bord de la falaise. Est-ce que tu avais peur de tomber ?
Non.
Il faut que tu y croies encore.
Moi, je crois. »
« Est-ce que tu pourrais me jouer de la musique maintenant ?»«
Oui. »«
Et si je crie, il ne faudra pas t'arrêter. »«
Tu ne veux pas que je te tienne la main ?»«
Non, je veux que tu joues sans t'arrêter, même si je pleure, même si je meurs. C'est la seule chose qui me rassure. » Hans avait la peur au ventre et la mort dans l'âme, et le découragement d'Amanda lui était plus douloureux que tout le reste. Alors il se mit à jouer pour la rassurer, comme s'il se fût agi d'une dernière volonté, d'une chose sacrée qu'il lui donnait avec ferveur. Sa musique fut d'abord tourmentée et violente, puis, à mesure que les étoiles tournaient, que pâlissait la nuit, elle devint plus calme et plus apaisante. À 4 heures, Amanda, couverte d'une sueur glacée, se mit à chanter, d'une voix faible d'abord, puis plus forte. Lorsqu'un cri lui échappait qui transperçait la mélodie, Hans changeait de ton ou improvisait une nouvelle phrase pour l'intégrer. Le chant d'Amanda, de plus en plus saccadé, de plus en plus dissonant, se chargeait avec l'accompagnement attentif du violon d'une beauté convulsive. Il ne fallait pas s'arrêter. C'était comme si la musique était le fil qui les maintenait ensemble, et en vie, et ni les contractions terribles de ses entrailles, ni ses cris n'eurent raison d'Amanda. Elle accoucha en chantant. Le dernier quart d'heure fut si intense que Hans se souviendrait à jamais de chacune de ces secondes. Il y avait la musique effrénée, essoufflée, magnifique d'espoir et d'angoisse. Il y avait le sang et la chair qui jaillissaient du corps écartelé d'Amanda, et tout autour d'eux, les trouées aveuglantes et rouges de l'aube la plus belle et la plus violente qu'il avait jamais vue sur la mer. Enfin, le bébé cria, et en une fraction d'instant, tandis que ses doigts ensanglantés lâchaient le violon et l'archet, là, dans le brutal silence de la mer, Hans vit les paupières d'Amanda s'ouvrir sur des yeux verts, si scintillants, qu'il se mit à sangloter. Épilogue 1. De la nuit de la naissance d'Ulysse restèrent 2 traces indélébiles, une tache rouge, circulaire, sur le pont du bateau, à l'endroit où sa mère avait versé son sang, et 2 petits croissants noirs dans les iris changeants d'Amanda. L'enfance d'Ulysse fut une période calme et heureuse. Amanda et Hans continuèrent les concerts, renforcés dans leur art par leur intense expérience commune, et ils acquirent une certaine notoriété le long de la côte sud. Ils gagnèrent assez d'argent pour vivre, et lorsque Miranda leur donna ce qu'elle estimait valoir la moitié de la brocante, ils achetèrent une petite maison en bois sur pilotis, dans une minuscule île au large de la ville. Le petit Ulysse grandit ainsi entre l'île, où il joua, le voilier, où il apprit le danger et la maîtrise, et les scènes improvisées, où il s'enivra de musique et de foule. Il ne mit, comme sa mère, jamais les pieds à l'école, et resta solitaire comme son père, jusqu'à l'adolescence. Une fois par an, pour Noël, ils revinrent dans l'hiver de leur côte natale, où les parents de Hans, le prêtre, Miranda et Lucinda,
les accueillir toujours à bras ouverts. Et puis Ulysse grandit et commença à étouffer dans l'espace clos où s'épanouissait le formidable amour de ses parents. Il les quitta très jeune, après les avoir traités de lâches et de simples d'esprit, après avoir pleuré et s'être excusé de son départ pour accomplir son destin sur la terre ferme. Ce qu'il découvrit dans le vaste monde contrastait tant avec la douceur surnaturelle de son enfance qu'il s'engagea dans un projet de révolution auquel il s'adonna avec un certain héroïsme. Il revint cependant toujours panser ses blessures auprès de ses parents. L'amour d'Amanda et de Hans l'un pour l'autre ne faiblit jamais. Le temps passé, l'air marin et la longue habitude de l'autre finirent par gommer jusqu'à leurs différences physiques. Ils vieillirent de la même façon, reçurent les mêmes rides d'expression sur le visage, le même hâle sur la peau, et gardèrent tous deux la silhouette de leurs 16 ans. Plus tard, les filaments d'argent dans leurs cheveux achevèrent cette ressemblance, et nul ne put jamais les voir passer sans savoir qu'un seul cœur les animait tous deux. Ils ne cessèrent jamais de faire l'amour, de regarder la mer et de se parler continuellement. Ils aimèrent leur fils d'un peu loin, sachant que son destin le séparerait d'eux, et se retrouvèrent intacts quand il fut parti. Ils furent toujours le pouvoir et la servitude, la misère et le profit, et se détachèrent progressivement de la société des hommes. Lorsqu'ils allèrent sur terre, ce fut toujours en voyage, et ils ne rapportèrent jamais davantage que quelques souvenirs de ce pays étranger. Ils ne se lassèrent jamais de leur réveil sur l'eau, de leurs escales imprévues, et de la sensation de vivre libre dans un monde où tout était offert. Ils furent ensemble. 2. Hans paraissait plus vieux dans ce décor blanc et brillant parmi ces odeurs d'éther. Amanda le regardait, en songeant qu'il devrait partir au plus vite de ce lieu hostile, qu'elle ne voulait pas lui infliger cette pénible scène. Rien qu'un coup d'œil au visage embarrassé de la jeune femme en blouse blanche lui avait tout dit, et elle ne fut pas surprise de ce que la voix maladroite lui disait. Elle ne pensait qu'à Hans, dont le visage était si douloureux en cet instant qu'elle avait du mal à ne pas le prendre dans ses bras. « Madame, disait la voix, vos analyses ne sont pas bonnes. En fait, il semblerait que vous traîniez cela depuis plusieurs années. » Amanda ne l'écoutait pas. Elle voyait l'espoir s'éteindre dans les yeux brillants de Hans. Elle avait envie de partir. « Nous devons vous prévenir, madame, que le traitement sera sans doute très difficile à supporter. Il est possible que vous perdiez vos cheveux et vos dents. Vous devrez rester alité pendant plusieurs mois, sous surveillance permanente, avec plusieurs piqûres par jour. Nous avons de très bons produits maintenant pour empêcher que les veines éclatent. » Hans était si pâle qu'Amanda crut qu'il allait s'évanouir. « Je resterai avec toi jour et nuit, murmura-t-il. « Non, monsieur, je suis désolée, les visites ne sont autorisées que pendant des horaires précis. » Amanda vit Hans se mettre à frissonner et se tourna vers la jeune femme. « Ça suffit, dit-elle doucement, nous avons compris. » La jeune femme essayait de se débattre. « Nous pouvons prolonger votre vie, madame, c'est le seul moyen. » « Mon amour, dit Amanda, je voudrais rentrer au voilier. » La jeune femme se souviendrait longtemps de ce vieil amoureux chancelant, dont le désarroi faisait tant de peine à voir, qui s'éloignait, agrippé au bras de son amour mourant. Elle se souviendrait aussi du visage étrange de cette vieille dame qui n'avait pas frémi en apprenant sa mort prochaine et qui gardait les yeux rivés sur lui. Des yeux mauves, avec de petites taches noires en forme de lune, qui projetaient la lueur d'une infinie compassion. Il y eut sur le voilier une nuit de lutte et de déchirement. Hans se révoltait, voulait déplacer des montagnes pour la rendre immortelle. Amanda, qui ne s'était jamais battue de sa vie, ne voulait pas se battre contre sa mort. Elle voulait se marier dans l'église du village et mourir en mer, dans les bras de Hans. Il l'aimait trop, pour passer une seule nuit sans elle. Un mois plus tard, les noces furent célébrées dans la petite église, par un jour frais et ensoleillé. Tout le village assista à la cérémonie. Les plus vieux se souvenaient avec émotion de la petite Amanda qui passait ses journées à écouter les gens. Les plus jeunes, eux, avaient été bercés par les récits abracadabrants qui entouraient cette famille et avaient passé des heures inoubliables dans la maison de la mère qui, telle une fabuleuse épave du passé, avait enchanté leur enfance. On afflua donc à l'annonce de cet événement, curieux de voir à quoi pouvait ressembler une mariée septuagénaire, dont on murmurait qu'elle était encore belle, et on ne fut pas déçu. Amanda se rendit à l'hôtel au bras d'Ulysse, vêtue d'une robe qui semblait tissée d'écume et d'écailles nacrées. Elle avait relevé ses longs cheveux blancs et y avait piqué des lys. À son cou dénudé, à ses poignets et à ses oreilles, des perles énormes et lumineuses contrastaient avec l'ocre mat de sa peau. Elle souriait, candide, et ses yeux grands ouverts s'étaient emplis d'un bleu d'azur et d'outre-mer. L'assemblée remarqua, avec un sourire approbateur, qu'elle ne portait pas de chaussures. Malgré son apparente légèreté, elle s'appuyait discrètement au bras de son fils, et un œil exercé aurait pu voir que sa démarche était lente et parfois irrégulière. Lorsque Hans, avec une dignité un peu solennelle, lui eut pris la main et qu'ils se furent agenouillés devant le prêtre, leurs silhouettes délicates serrées l'une contre l'autre donnèrent à tous l'illusion que leur âge s'était envolé. La fête qui suivit au bord de la falaise se prolongea jusqu'au crépuscule. Puis les convives enchantés accompagnèrent les vieux amants jusqu'au voilier pour bénir leur voyage de noces. Amanda, au cours de cette journée, répéta souvent qu'elle était heureuse et remercia tout le monde d'être venu. Au moment de lever l'ancre, elle toucha le visage de son fils et lui dit simplement qu'elle l'aimait. Puis ils partirent, sans que personne ne sache vers quelle destination. Paris, juin 2002.